marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le thème de nos rediffusions cette semaine, des femmes.
La radiodiffusion française vous invite à écouter...
Le témoin de ce vendredi, Barbara Cassin, nouvelle académicienne au pluriel.
L'être, parlant, est un pléonasme, n'est-ce pas ? C'est comme parce qu'il est parlant qu'il est être, puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Alors, le parlant que vous êtes tous, enfin, du moins je le suppose, le parlant que vous êtes tous, se croit être.
Jacques Lacan, cher à Barbara Cassin, notre témoin. Parler permet d'être humain, soit, mais il faut s'occuper de ce que peuvent les mots. Ils ont le pouvoir de faire advenir. Au départ, Barbara Cassin est spécialiste de la philosophie grecque ancienne. Elle a d'emblée mis au cœur de son travail la philologie, l'analyse critique, l'étude formelle des textes et des mots. Mais l'appétit de la traduction lui est venu bien avant. Rien ne permet mieux d'envisager un mot d'une langue que l'épreuve du face-à-face avec un mot d'une autre langue. Une traduction en appelant une autre se tisse un réseau de plus en plus vertigineux. Avec ses amis du Labex Transfer, Barbara Cassin présentait récemment un dispositif interactif, accessible en ligne, les routes de la traduction. Une sorte de plan de métro parisien, où les lignes se nomment non pas Vincennes Neuilly, mais Aristote, Euclide, Luther, Les Mille et Une Nuits, Marx, Tintin, avec des stations, Athènes, Rome, Bagdad, Alexandrie, Shanghai, Calcutta, et partout des possibilités de correspondance. L'universel complexifie. Energeia, la force en action, selon le grec. Barbara Cassin a toujours apporté beaucoup de force à des projets collectifs. Son étonnant vocabulaire européen des philosophies, le dictionnaire des intraduisibles, où chaque mot est considéré sous toutes ses faces et selon tous ses transferts, a rassemblé quelques 150 collaborateurs. Elle rejoint l'Académie française, cinquième femme d'un collège qui réunit pour l'heure 36 membres. Encore un collectif. Le passage, note en bas de page, de l'adjectif collectif au nom serait l'effet d'un transfert du russe. L'Académie, une institution, en tout cas, est responsable d'un dictionnaire dont on gage que Barbara Cassin y introduira du mouvement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
La langue maternelle, c'est extrêmement important. C'est la langue de mon pays, la langue où je suis. Encore que aucune langue n'appartient à aucun pays. La langue maternelle, le français.
La mienne, oui.
Très vite, la pratique avec le père de la traduction. Alors, vous êtes au collège, vous vous souvenez du grec plus que du latin.
Oui, en effet, parce que je pense que c'est les textes grecs et les mots grecs qui m'ont fait comprendre que le français était une langue. Justement à cause de la différence entre les deux. Le latin est trop proche du français pour que ça m'ait vraiment étonné.
Alors, votre père était peintre, votre mère était peintre, et vous faites souvent l'analogie entre le travail de traduction et le travail du peintre devant son modèle.
Une phrase peut-être serait commune, c'est une très belle phrase de Borges, « L'original essaye de ressembler à la traduction ». Et on voit bien pourquoi, pour Magritte, l'original n'est pas tout à fait lui-même, n'est pas tout à fait fait, tant qu'il n'est pas peint au bout du pinceau du peintre.
Alors, traduisez en Magritte une femme parfaitement peinte, extrêmement ressemblante par Magritte seulement.
Et simplement, il y a le haut, il y a le buste, et en bas, c'est pas fini, c'est juste au bout du pinceau. Donc, on la verra quand, et elle existera, quand il l'aura reproduite.
Après, vous avez fait des études classiques, brillantes, sans échec.
Pas d'échec, oui, jusqu'à...
Ah si, pareil, vous avez été reçu assez difficilement à l'agrégation.
Non, j'ai jamais été reçu à l'agrégation.
Vous n'avez jamais été reçu à l'agrégation?
Jamais. Je l'ai présenté énormément. Il faut dire que entre la fin de mes études, disons secondaires, réussies, et l'agrégation, il y a eu 68. Et puis il y a eu le séminaire du Thor avec Char et Heidegger, qui mettait la barre un petit peu ailleurs en tout cas.
J'attends le discours qui va vous accueillir à l'Académie française et qui devra considérer cet instant de votre biographie. Ou bien les travaux d'enseignement assez originaux que vous avez menés, parce que vous accordez beaucoup d'importance, par exemple, dans votre parcours, à ce que vous avez fait à l'hôpital Étienne Marcel.
Oui, un hôpital de jour où j'ai enseigné aux adolescents psychotiques. Et ça a été pour moi à la fois quelque chose de bouleversant réellement sur le plan de la vie, d'épuisant, et une ouverture incroyable sur la difficulté que ça peut représenter d'avoir une langue maternelle. Vous parliez de langue maternelle tout à l'heure. Eh bien, tout d'un coup, je me suis dit que ces enfants qui étaient en général mutiques, qui avaient des troubles, en tout cas des troubles de langage, on a entendu Lacan tout à l'heure, hein, le parl'être. Bon, ces enfants étaient troublés au point de leur être parlant. Et je me suis dit que peut-être ils ne supportaient pas la langue maternelle. Il y avait là quelque chose, dans le rapport à la mère, qui était difficile et trouble. Et du coup, j'ai voulu leur faire sentir qu'ils avaient une langue maternelle, ou du moins plus maternelle qu'une autre. Et je me suis mise à écrire du grec au tableau. Et j'ai travaillé avec eux sur cet alphabet qu'ils ne comprenaient pas. Et c'était extraordinaire pour eux de découvrir que, bon, il y en avait un autre alphabet qui était le leur. Et du coup, on a travaillé sur le Cratyle de Platon, je l'ai lu en grec avec eux, et en français évidemment en traduisant, et on a vu à quel point Socrate était inventif et Cratyle était inventif sur les étymologies folles, complètement contradictoires, et ils se sont eux-mêmes emparés d'étymologies du français.
Alors soit une langue, maternelle ou pas, vous citiez Lacan, on va l'entendre de nouveau, mais en pied, comme on dit dans notre langue à nous, à la radio. Après, une brève citation de Humboldt, le grand Allemand du XVIIIe.
Chaque individu qui a l'esprit un peu cultivé se forme, dans le sein de la même nation, une langue à part. Attache des idées autrement modifiées aux mêmes mots, les langues se prêtent à toutes ces différentes nuances. Elles en sont même plus parfaites si elles savent en exprimer avec clarté et énergie une plus grande diversité.
Le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens.
3, 4, 10, 25 sens.
Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur une phrase de Lacan, je vous la cite. C'est une langue, virgule, entre autres, virgule, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Je trouve cette phrase extraordinaire. Et c'est elle qui m'a servi de direction à l'intérieur du Dictionnaire des Intraduisibles.
Alors c'est un vocabulaire européen, pas des concepts philosophiques.
Non, des mots.
Il s'agit des mots, oui. Alors, une équipe énorme, des mots venus de différentes langues, dont on va voir comment ils bougent dans chaque langue, se transfèrent de l'une à l'autre. Tenez, à partir d'un exemple qui m'a frappé, Pravda. Alors on se souvient de l'importance considérable qu'avait ce journal officiel de l'Union soviétique naguère, Georges Bortoli, et pour défendre la Pravda, Pierre Jukin.
Ça c'est la Pravda, qui veut dire la vérité. Elle a deux ordres de Lénine, elle a été fondée en 1912, et c'est la Bible quotidienne du Parti communiste soviétique.
Il y a combien de pages? Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de pages, hein?
Il y a 6 pages 3 fois par semaine et 4 pages les autres jours.
Alors ça c'est un numéro exceptionnel, alors il a 6 pages.
Il a 6 pages, c'est un gros numéro. Maintenant quand il y a les congrès du parti, il y en a 12 ou 20, mais ça n'arrive pas toujours.
C'est pas très illustré, hein?
C'est relativement très illustré par rapport aux années de Staline, où il n'y avait pas d'illustration du tout.
L'essentiel, ce n'est pas les séquelles du stalinisme qu'il faut combattre, ou ce qu'il est convenu d'appeler le stalinisme. L'essentiel, c'est le mouvement général qui va vers l'approfondissement de la démocratie soviétique. Chaque jour, pratiquement, il y a des pages entières ou des articles entiers de critiques venant des lecteurs. En voilà, il y a là des tractoristes, il y a là des ouvriers, des journalistes qui écrivent pour critiquer. Les ministres doivent répondre dans la Pravda.
Alors, des pages de critique alors qu'il y a 4 pages au total. Où est la vérité sur la Pravda?
En tout cas, dans l'article du Dictionnaire des Intraduisibles, qui a été fait par un Ukrainien russophone, absolument remarquable, Constantin Sigov, il nous explique que Pravda est le terme qui a servi dans la Bible à traduire dikaiosune. Dikaiosune, ça veut dire justice. Donc, Pravda, ça ne veut pas dire d'abord vérité, ça veut dire d'abord justice. Et il y a un autre mot pour dire vérité au sens d'adéquation qui est le plus courant chez nous. C'est istina, justesse, si vous voulez. Donc, ce qui me paraît très extraordinaire, c'est que quand on regarde Pravda de l'extérieur, c'est-à-dire depuis le français, eh bien, Pravda est homonyme entre quelque chose comme vérité et justice. Alors que quand on regarde depuis l'ukrainien ou depuis le russe, c'est vérité qui est homonyme, qui veut dire à la fois exactitude et quelque chose de plus.
Oui, mais Constantin Sigov, il explique que Dostoïevski a utilisé le mot Pravda et qu'il l'a utilisé en pensant au sens qu'avait au XIXe siècle, dans le vocabulaire des premiers socialistes français, donc en français, le mot justice sociale. Mmh. Et dans Pravda, il y a justice sociale aussi.
Oui, les mots n'arrêtent pas de bouger et de s'enrichir les uns par les autres, ou les usages les uns par les autres. C'est ça une langue. Et une langue ne peut pas se concevoir sans des rapprochements avec les autres langues. Si vous voulez, la diversité, elle est inscrite à l'intérieur et à l'extérieur, les deux.
Et alors, ce vocabulaire européen des mots de la philosophie, il est titré aussi le dictionnaire des intraduisibles.
Oui. Intraduisible, pour moi, ça ne veut pas dire ce qu'on ne traduit pas. Ça veut dire ce qu'on ne cesse pas de, et puisque Lacan était dans le coin, disons, de ne pas, entre parenthèses, ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. C'est-à-dire qu'il faut remettre ça sur le métier, et il faut le remettre à chaque occurrence, pratiquement.
Alors, ce sont de grands travaux collectifs avec des universitaires qui se réunissent chez vous, puis dans différents endroits du monde, dans des symposiums. Mais il y a un autre aspect de Barbara Cassin, c'est Barbara Cassin en mission, ici, là, ailleurs. On va entendre à cet instant précis de l'émission une chanson dans une des langues officielles, nationales, de l'Afrique du Sud, qui s'appelle le Xhosa.
Xhosa, mais je ne sais pas, c'est une langue à clic, je ne sais pas cliquer.
C'est la langue de Mandela.
Oui.
Et ici, nous avons un groupe d'hommes seulement, l'Académie d'autrefois, quoi, et qui chante sur le mode méthodiste. Vous allez voir qu'il va être question de réconciliation dans un instant.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Barbara Cassin est des nôtres avant de rejoindre l'Académie française. Alors vous avez le pied volant, vous êtes toujours prête à partir.
Oui.
Et dans quelles circonstances êtes-vous allée en Afrique du Sud?
J'étais invitée là-bas par un ami, Philippe-Joseph Salazar, qui avait fondé un institut de rhétorique et un département de rhétorique à l'université de Cape Town. Et j'y ai enseigné, et à des moments absolument passionnants.
Un enseignement de rhétorique, ça ressemble à ce qu'on promeut aujourd'hui de la Seine-Saint-Denis aux écoles de commerce, le réapprentissage de méthodes rhétoriques pour l'expression orale?
Non, c'est plutôt une réflexion sur ce que la rhétorique peut nous aider à comprendre et à faire. C'est-à-dire à la manière dont, au fond, les mots font les choses. Et Gorgias, le grand sophiste, grand orateur, disait le logos, c'est-à-dire le discours, la parole, est un grand souverain, un grand tyran, qui avec le plus petit et le plus inapparent des corps, performe, fabrique les actes les plus divins. Et Desmond Tutu, l'archevêque de Cape Town, qui dirigeait la commission Vérité et Réconciliation, a dit une phrase qui pour moi est exactement analogue. Il a dit, on croit d'habitude que le langage dit ce qu'il y a, dit les choses, la commission n'est pas de cet avis.
Alors la commission ?
La commission Vérité et Réconciliation qui a donc tenté de fabriquer le peuple arc-en-ciel, c'est-à-dire le peuple d'Afrique du Sud, en évitant le bain de sang après apartheid et au moyen de mots. On a fait parler les victimes et les bourreaux ensemble. Donc ce dispositif très particulier sur lequel il faut revenir parce qu'il est d'une intelligence absolument remarquable, il a fait en sorte que, disons, les bourreaux étaient obligés de dire tout ce qu'ils avaient fait pour pouvoir être amnistiés. Donc tout était sur la table. Le langage, discours et rhétorique fait les choses. Il construit la réalité.
Oui, mais la difficulté, elle n'était pas seulement dans l'écoute mutuelle difficile des bourreaux et des victimes. Elle était dans le fait qu'il y a 11 langues nationales. Les mots qui sont inventés dans les commissions, est-ce qu'ils vont exactement avoir le même sens d'une langue à l'autre? Je suis pas sûr qu'archibishop et archevêque, ce soit exactement la même chose, par exemple. Mais les mots utilisés dans la commission.
Eh bien, en tout cas, la commission et ensuite la constitution, ou avant même la constitution, puisqu'il y a eu une constitution provisoire avant la commission et qui l'instaurait, au moins prêtait attention aux langues et à la différence des langues. Et je prendrai un seul exemple, mais qui est vraiment très fort, qui est que la loi constitutionnelle a été écrite, évidemment, dans les 11 langues nationales, mais elle a fait la part belle aux mots intraduisibles. Et dans les 11 langues nationales, il y avait le terme Ubuntu, qui est un terme Xhosa, justement, un terme bantou des langues zoulous. Et ce mot, eh bien, on peut le traduire par réconciliation, on peut le traduire par fellowship, on peut le traduire d'un tas de manières. Et quand on demande à un Xhosa ce que ça veut dire, il dit « nous sommes, donc je suis ». Très intéressant.
Barbara Cassin, au pied ailé, va s'asseoir dans le fauteuil de Philippe Bossan,
oui,
à l'Académie française. C'est un grand nom, le musicologue Philippe Bossan. Mais je voulais évoquer une autre de vos missions récentes, le MUCEM de Marseille. Vous a dit, vous ne voulez pas devenir commissaire d'une grande exposition qui s'intitulerait « Après Babel, traduire ». Et parmi les tâches que vous vous êtes imposées, une commande de jeunes gens brillants du Satis, Sébastien Uria Fernandez, Antoine Grunenberger, qui sont allés enregistrer des conversations dans Marseille, des conversations où on surprend le voisinage de toutes les langues.
Ah oui, il y a ça, que le client il a laissé tout à l'heure. Al-Mahalera. Ou à Mosquetidi.
Ah, Mosquetidi, Hodan.
Mosquetidi, Hodan, exactement.
Ok, ça sent bon.
C'est très bon.
La Kenbajan, c'est pas trop cher parce que je vous
te rends. T'inquiète pas, je te fais crédit. T'inquiète pas, je vais t'en donner pour 5 euros. Si t'as pas, tu me donneras la prochaine fois. Okay, les étudiants, je sais les gâter. Étudiants, ou à Mahalera, crédit, va nous sommeiller.
Utilisation, ok, c'est.
Utilisation, ou à Hadkadan, Charbogan. Okay. Chanhal, ou à 1 euro. Aye. Tu en prends un, tu l'allumes juste avec un petit briquet, aye, ça fait des étincelles. Au bout de 3 minutes, tu peux mettre tes enfants, tu les fais passer, okay, dans toute la maison, sauf les toilettes et la douche.
Ok. Marka, maskedi ou andul semaine.
Maskedi ou andul semaine. Marka, karan loubal kadurdigi. Ou à l'entrée.
Ok. Agal, kamarka ou d'gon boussi.
Agal, kou d'gon tiku, gashaba ou d'gour sendunta, inshallah, rabbi.
Ok. Habad, habad ma qadan.
Habad ma qadan, marhaba.
Wahanka, wahkalan dondon,
wahla.
Alors, il y a un nom scientifique à ce qu'on vient d'entendre. Ça s'appelle l'alternance codique. C'est-à-dire ou en anglais, le code switching. Quand on change de langue à l'intérieur d'une même conversation avec la même personne. Et on entend ça tout le temps à Marseille. Magnifiquement. Et je trouve que c'est un dispositif comme ça qui en dit long sur la manière dont on parle plus d'une langue, toujours, et dont les langues, on va dire, s'étonnent et s'enrichissent l'une l'autre. Et il y a des mots là qui sont dits dans une langue et d'autres dans une autre parce que c'est plus intéressant, plus immédiat de parler comme ça.
Moi, j'ai repéré le mot crédit. Et vous racontez une histoire vous plaît beaucoup, celle d'un nouveau restaurateur de Marseille qui obtient un micro-crédit parce qu'il est berbère et il a un projet mexicain.
Oui, ce restaurateur a obtenu un micro-crédit de l'ADI, qui est un organisme de micro-crédit en France, pour ceux qui ne sont pas éligibles aux crédits bancaires normaux, ordinaires, et il a ouvert un restaurant. Et on lui a demandé... Comment ça se fait que lui, berbère, ouvre un restaurant qui s'appelle Un Mexicain à Marseille? Il nous raconte ça au moyen d'un objet. Et d'un objet et du récit de cet objet. Et cet objet, c'est une main de Fatma qu'il a fait dessiner, peindre par une amie d'ex en lui disant « Imagine que tu es Frida Kahlo ». La peintre mexicaine. Donc, on a une main de Fatma avec un œil au milieu, mais avec des couleurs, des formes d'une violence toute mexicaine.
Alors, ce restaurateur, vous l'avez contacté dans le cadre d'un grand projet, Maison de la Sagesse. Traduire à propos de Maison de la Sagesse, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, Barbara Cassin, des méthodes qui sont utilisées dans les maisons d'accueil, enfin je veux dire dans les bureaux qui reçoivent les réfugiés de la mer Méditerranée. Vous dites parfois « mort Méditerranée ».
Oui, « mort Méditerranée ». On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. Et ça fait partie de nos travaux dans les maisons de la sagesse. Nous travaillons sur les questionnaires, en faisant peut-être ce qu'on pourrait appeler... un glossaire de la bureaucratie française. Nous réfléchissons non pas à la difficulté de traduire date de naissance ou nom-prénom, car ça se traduit dans toutes les langues, on peut le traduire, mais à ce qu'il y a entre les mots, entre les questions. Quand on demande à un Malien, par exemple un Soninké, quelle est sa date de naissance, eh bien, très très souvent, et on l'a constaté avec la mairie d'Aubervilliers, avec laquelle on travaille, très souvent, il dira 31 décembre ou 1er janvier.
Bon. Et quand on demande à une femme syrienne si elle est paxée ou divorcée...
Voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Soit l'Europe, maintenant. On y vient sensiblement. Vous savez comment font les réfugiés, ils font du benchmarking
voilà.
Entre les...
Nous, on fait du benchmarking des glossaires de la bureaucratie.
Ouais. Mmh. Soit l'Europe. Alors là, votre réflexion... est organisé autour d'une formule que chacun finit par connaître, mais qu'il est toujours bon de rappeler, Umberto Eco.
Mmh. La langue de l'Europe, c'est la traduction.
Mais on pourrait peut-être quand même imaginer, en observant un certain nombre de constantes, le fait qu'il y a des mots mélangeables et superposables, un langage commun qui éviterait tous ces inconvénients, tous ces intraduisibles. Le témoignage de Diego Marani, il y a une vingtaine d'années.
Plusieurs langues se côtoient, on parle plusieurs langues, on surprend de conversations qui se passent en plusieurs langues, chacun comprend les langues des autres, on n'a souvent pas besoin d'une langue véhiculaire. Alors je me suis dit, tiens, que se passerait-il si toutes ces langues-là, on les mélangeait? Et mélangeons tout ce qui est mélangeable. Je pars d'une structure grammaticale à peu près anglaise. C'est de l'anglais simplifié, de l'anglais pour tout le monde, avec pas trop d'irrégularité. Et à cela, j'ajoute un vocabulaire qui, pour sa compréhension, tire profit de ce qui est commun entre toutes nos langues. Je m'explique. Si je vous dis le mot « juvenile » en anglais, ce mot-là a une racine latine commune dans toutes nos langues. Et alors, il est compréhensible dans toutes nos langues. Si j'invente un mot avec cette racine-là, il sera compréhensible un peu partout en Europe. Ensuite, il y a une autre ressource très importante. Ce sont les mots que j'appelle sans frontières. Par exemple, si je vous dis muchacha, bazooka, blitzkrieg, coiffeur, hooligan, kick-off, pizza, mama, Napoli, mafia. Ce sont des mots, et il y en a plein, il y a une panoplie énorme de mots comme ça, qui n'appartiennent plus à personne et qui sont un peu de tout le monde. Et avec cela, je peux construire mon Europanto.
Alors, mettons de côté pour l'instant la question problématique de l'Europanto, mais il y a des réflexions justes, là, des structures communes là, qui peuvent servir d'échangeurs, qu'on retrouve dans l'anglais, des mots superposables.
Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Communiquer,
bah
ça
oui,
va marcher.
Communiquer, oui.
Oui, très bien.
Enfin, communiquer.
Communiquons, enfin communiquer.
On ne fait que ça.
On a toujours communiqué.
Et on ne fait plus que ça.
Le problème, c'est qu'on ne fait plus que ça. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune langue de culture qui est grosse de quelque chose de l'ordre d'une vision du monde singulière. Il n'y a plus aucune œuvre qui se fabrique dans une langue, sauf des dossiers de soumission à Bruxelles, ou bien des phrases du genre le bazooka de ma muchacha, je sais pas quoi. Hein ? Quel intérêt ? Aujourd'hui, c'est le globish qui est l'européanto ou l'espéranto qui est extrêmement important. Je ne suis absolument pas contre l'idée d'une langue de communication, mais je suis contre l'idée qu'elle tient lieu de toutes les autres.
Alors, prenons le cas du travail scientifique. On dit maintenant à un chercheur français, mais aussi bien un chercheur mexicain, il faut que tu penses en anglais.
Oui, oui. En tout cas, il faut que tu écrives en anglais.
Mais peut-être même il faut que tu penses
coup,
en anglais.
Mais c'est juste, si on lui dit il faut que tu écrives en anglais pour être bien classé et pour obtenir de l'argent, c'est combien d'articles avez-vous publiés dans des revues classées A et combien de fois ont-ils été cités ? Bon, ces revues classées A sont anglophones. Donc souvent, des Chinois sont beaucoup mieux classés que des Français. Bien, je crois que penser dans sa langue, dans celle dont on dispose jusqu'au bout, dans son inventivité, celle qu'on peut facilement s'approprier et accroître, dans l'énergie de laquelle on est, ça permet de réellement d'inventer autrement. Et je pense que chaque langue a, alors là je suis très humboldtienne, on a entendu Humboldt au début, chaque langue a en propre quelque chose de l'ordre d'une vision du monde. Simplement, il faut partager ces visions. Et il ne faut pas rester enfermé dans un génie, un très encombrant problème. Là où on croit que sa langue est celle qui est vraiment la plus propre à dire le monde. Je ne veux ni globish, global English, ni nationalisme ontologique. Donc il reste pour moi, outre une langue de communication qu'on peut très bien admettre et qui est nécessaire, il reste la traduction.
Je vais reconstituer ce qui va vous advenir, vous savez. Vous allez devoir lire votre discours en l'honneur de Philippe Baussan
oui.
devant un comité.
Oui.
Oui, si, vous saviez. Hein.
Non, vous me l'apprenez.
Oui. Et puis, après, vous allez passer entre les ronds de tambour de la garde républicaine au moment de votre réception. Barbara Cassin, merci à vous. Générique est encore le plus fort. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Alexandre Chenet à la technique et Liscom à la réalisation.